Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 25 octobre. Eh oui, déjà. 25 octobre 2018.
Le temps file.
Dans deux mois, c'est le 25 décembre.
Ah ouais, oui, d'accord. Merci beaucoup, Yvan, de nous rappeler ça. Ici Monique Hiroac, en compagnie de Marie Lalande.
Et bonjour.
Bonjour Marie et Yvan Deslauriers.
Bonjour Monique.
Ainsi qu'en régie, Maurice Boulay. Alors, nos sujets aujourd'hui. Marie, de quoi allez-vous nous parler?
Alors, on est le 25 octobre, c'est presque l'Halloween.
Oui, alors, cinq jours, là.
Oui, cinq dodo. Je vous présente des suggestions de sorties qu'on peut faire en famille en fin de semaine.
D'accord. Donc, ça, c'est pour notre première partie.
Pour la première partie.
Et Yvan?
De mon côté, je poursuis mon exploration de l'exercice physique pour les gens qui sont malades.
D'accord.
Alors, mes interventions de la première partie, ça va toucher l'exercice physique et la sclérose en plaques.
Ah oui, très intéressant. Mm-hmm. De mon côté, eh bien, écoutez, peut-être un sujet qui a l'air un peu morbide, la mort. Mm. Hein? Mais seriez-vous curieux de savoir quelle couleur a la mort? Eh bien, il y a des chercheurs qui ont trouvé ça.
C'est pas noir?
C'est pas noir du tout.
Ah bon?
Et ça s'étale dans le temps. Alors, c'est à suivre.
Ouais.
C'est parti! Alors, Marie, des suggestions pour des activités...
Des sorties familiales.
Ah, des sorties familiales pour l'Halloween.
Pour l'Halloween.
D'accord.
Alors, on peut trouver, là, je vais vous lancer ça en vrac. Il y en a 16 en tout. Je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire, mais bon. Si on veut, on peut trouver l'intégrale de ça sur le site tatribu.com. Il y a tous les détails et il y a les liens cliquables pour avoir toutes les informations.
D'accord.
Donc, si vous êtes en Estrie, vous pouvez aller au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Il y a une exposition qui s'appelle « Autopsie de la peur ». Qu'est-ce qui se cache donc derrière la peur et les phobies? Sous la loupe de la science, il y a une causerie qui va démystifier les sources de frissons. Est-ce qu'on osera mettre...
Les sources de frissons et pas de friction, hein?
De frissons.
Wow!
Frissons. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit?
Donc, t'as bien dit ça,
dit la bonne chose.
Mais c'est parce que quand on dit source, on voit souvent de friction.
Peut-être que ça peut causer des frictions aussi, mais ça, l'histoire ne le dit pas.
D'accord.
Donc, est-ce que... Puis on peut aussi mettre son courage à l'épreuve parce qu'il y a des expérimentations qu'on peut faire. C'est pour les 7 ans et plus, et c'est samedi et dimanche.
Donc, il y a une base scientifique.
Oui, tout à fait.
Maxime Bernier
c'est
a conçu.
C'est très sérieux.
A conçu ça.
Je ne pense pas que c'est Maxime Bernier, non.
Et c'est interactif.
Oui.
Surtout ça.
Si vous êtes à Laval, vous pouvez aller fêter l'Halloween au Centre de la nature les 27-28, donc samedi dimanche. Le centre se transforme pour l'Halloween. Il y a des animations pour tous les goûts, toutes les peurs. On peut visiter la maison hantée pour quelques sous supplémentaires sur la thématique des sorcières. On peut aller à un atelier de cinéma où les jeunes auront la chance de trouver une scène d'épouvante. Il y a une balançoire russe. Non, je ne sais pas ce que c'est une balançoire russe. Et des personnages de foire. Zone des grosses frayeurs, c'est pour 10 ans et plus. Zone des petites frayeurs, c'est pour tous.
Et il n'y en a pas de moyenne.
Non. Si vous êtes en Mauricie, vous pouvez faire la chasse aux fantômes au musée Pop de Trois-Rivières, POP. Il y a une équipe de chasseurs de fantômes qui a un urgent besoin d'aide. Il y a des fantômes qui ont été repérés dans la vieille prison de Trois-Rivières. L'équipement de l'escouade cesse de fonctionner pour mener leur enquête. Ils ont besoin d'un coup de main pour chercher des indices, pour trouver des cachettes et ajuster les fusils à photons. Donc, c'est pour les 8 à 12 ans et c'est samedi seulement, le 27 octobre. Si vous êtes en Montérégie, plus précisément à Sainte-Julie, il y a un centre avec des zones de jeu à Sainte-Julie qui s'appelle le Zoukari. Donc, on peut fêter l'Halloween chez Zoukari parce que vous allez braver là une zone hantée. Il y a des ateliers de décoration de citrouille, on peut fabriquer de la glu, on peut se faire maquiller. C'est samedi et dimanche 27-28. Si vous êtes à Montréal, donc il y a l'Insectarium. L'Insectarium offre une exposition ou en fait des activités, des animations qui s'appellent « Araignées démasquées ». Souvent incomprises, les araignées cachent des secrets fascinants que vous pourrez découvrir. Et ça, on peut aller faire ça jusqu'au 31 octobre. Dans les dernières semaines, j'ai parlé beaucoup, beaucoup du jardin botanique, des activités qu'on pouvait faire au jardin botanique. Donc, tout sur les cucurbitacées, un concours de citrouilles, la sorcière Esmeralda, puis un conte animé pour les 4 à 8 ans. On peut aller au théâtre. La Maison Théâtre à Montréal offre deux spectacles. D'abord, un pour les 6 à 9 ans qui s'appelle La petite sorcière en solo, où on s'amuse à tordre les codes du conte pour raconter avec un peu d'humour puis un petit peu de frisson, pas de friction, une histoire fantastique de résilience, de courage. Et c'est du 31 octobre au 11 novembre. Il y a l'autre spectacle de la Maison Théâtre pour les 6-12 ans qui, lui, est jusqu'au 28, donc jusqu'à dimanche. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on doit s'occuper d'un bébé troll à l'aspect peu invitant et au comportement dérangeant? On va voir pour trouver la solution.
Wow.
Reptiles, amphibiens et Halloween, ça, c'est le parcours nature Gouin. C'est à Montréal, en fait, dans le nord de la ville. Mm-hmm. Donc, on peut découvrir en famille ce qui se cache dans l'environnement de notre demeure. On mélange là apprentissage et plaisir à travers des activités sur la nature, des bricolages, des expériences scientifiques et plus. On reçoit un passeport nature et on peut le faire estampiller lors de chaque activité. Puis, on court la chance de remporter plusieurs prix de présence. Tous les samedis là-bas, mais particulièrement samedi le 27 de 14 à 16 heures, il y a une activité, une super activité qui est gratuite.
Est-ce que tu as dit? C'était où?
C'est au Parc Nature Gouin.
Okay. OK.
Et donc, dernièrement à Montréal, la soirée d'Halloween du Tic Tac Gym. C'est une soirée costumée, une chasse aux bonbons, le tapis gonflable, des courses à obstacles, la gymnastique, des jeux et bien plus. Et ça, c'est vendredi soir, le 26 octobre. Est-ce que j'ai du temps encore pour la suite? Alors, si vous êtes à Québec, week-end courge à la ferme Bédard et Blouin, cueillette et décoration de citrouilles, dégustation de recettes à base de courges, tour de tracteurs de mini-fermes, et c'est jusqu'au 31 octobre. Puis, je peux vous proposer une autre activité si vous êtes au Saguenay. Le zoo sauvage, j'arrête après, c'est promis, mm-hmm. à Saint-Félicien. Présentation éducative sur les différentes espèces animales qui font partie de la culture de l'Halloween, qui va être présentée au Borealium. On peut confectionner une friandise pour une espèce animale au zoo, samedi et dimanche, 27-28. Voilà.
Il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts partout.
Alors, Yvan, des activités physiques pour aider à... Ça fait un contrepoids, finalement, à la maladie de la sclérose en plaques.
Oui, tout à fait. Donc, c'est dans... J'ai trouvé ça sur le site canoë.ca. Ça a été publié le 29 septembre dernier, 2018. Ça s'appelle tout simplement l'exercice et la SP, ou la sclérose en plaques.
Peut-être dire que ça sera en deux parties.
Ça va être en deux parties, effectivement. Il va y avoir de la musique entre.
Mm-hmm.
Je ne chanterai pas.
Merci.
Pourquoi vous dites merci? Vous m'avez jamais entendu.
Continuez.
Une étude récente démontre que pratiquer régulièrement une activité physique suffisamment vigoureuse pour faire augmenter le pouls et le rythme de la respiration a amélioré la forme physique, la force des bras et des jambes, ainsi que le transit intestinal et le contrôle de la vessie chez les personnes atteintes de sclérose en plaques ayant participé à l'étude. Certaines personnes ont même signalé se sentir moins déprimées et moins fatiguées.
Mm-hmm.
D'autres études ont démontré que l'activité physique peut aider à réduire certains problèmes reliés à la sclérose en plaques, comme la perte d'équilibre et les spasmes musculaires. L'activité physique peut améliorer la force musculaire et la santé cardiovasculaire. Ça signifie qu'en cas d'exacerbation des symptômes, vous disposez d'une réserve d'énergie et de soutien. Puis, une fois que vos symptômes se sont résorbés, vous vous sentirez plus fort pour récupérer. Il faut se rappeler que toute activité physique procure des bienfaits. Ça, je le dis assez souvent à toutes les semaines.
Oui.
Mais que...
On commence à comprendre.
Il y a un autre message qui s'en vient. Mais que ces bienfaits s'estompent lorsque vous cessez d'être actif. Et puis, quand on est touché par la maladie, c'est une des choses qu'on laisse tomber souvent, c'est l'activité physique. Il est donc important de continuer. Ça veut dire que si vous constatez que vous n'êtes plus en mesure de pratiquer les activités que vous aviez l'habitude de pratiquer, essayez de modifier vos habitudes pour les rendre réalisables. Même une activité physique modérée d'une durée d'environ 20 minutes par jour peut vous procurer les mêmes avantages que les entraînements plus exigeants. Il s'agit de trouver une activité que vous aimez pratiquer et elle vous procurera des bienfaits.
Ça s'applique à tout le monde, en fait.
Oui, ça s'applique vraiment à tout le monde. Ma préoccupation des dernières semaines, c'est vraiment d'essayer de voir de quelle façon des gens qui sont touchés
oui, bien
dans
sûr.
leur euh, dans leur façon de faire par une maladie importante, comment ils peuvent s'adapter.
Tout à fait.
Et c'est là le message que j'ai dit souvent la semaine dernière. Consultez votre médecin, votre spécialiste ou votre neurologue avant d'entreprendre un programme d'activité physique parce qu'ils peuvent vous aider à comprendre toutes les précautions ou directives spéciales qui s'appliquent à votre situation.
Bien sûr.
Même si une activité physique présente certains défis, vous pouvez vous servir de vos habiletés individuelles et de vos besoins au fur et à mesure de l'évolution de vos symptômes et de vos médicaments. Alors, demandez à votre médecin, physiothérapeute ou instructeur des directives et des conseils, particulièrement aux questions suivantes. Comment mesurer votre pouls et votre vitesse de respiration et atteindre votre objectif de pulsation cardiaque? Comment adapter et modifier les routines pour les adapter aux variations dans vos symptômes? Comment pratiquer une activité physique tout en prenant adéquatement vos médicaments contre la sclérose en plaques pour en obtenir des meilleurs résultats, surtout si vous prenez des médicaments antispasmodiques? Donc, vous essayez de contrôler vos tremblements. Comment vous faites pour faire de l'activité physique dans ces conditions-là? Comment traiter les symptômes comme la sensibilité à la chaleur? Puis ça, c'est très important dans le cas de la sclérose en plaques. Le manque d'équilibre, la fatigue, la faiblesse musculaire ou les spasmes musculaires. Comment modifier les activités physiques, surtout si vos symptômes causent des faiblesses musculaires ou manque de coordination d'un côté du corps. Comment pratiquer une activité physique plus intense de façon sécuritaire. Et finalement, comment vous réchauffer de façon convenable. Vous prenez 5 à 8 minutes pour faire un réchauffement, vous étirez avant de pratiquer une activité physique. Les réchauffements favorisent la circulation sanguine vers les muscles et vous préparent à profiter au maximum des bienfaits de l'activité physique. Les étirements, par contre, aident les ligaments, les tendons et les muscles à s'allonger, aident à conserver la souplesse et la portée des mouvements, soulagent la douleur musculaire, aident à prévenir les blessures et réduisent le temps nécessaire à la récupération en cas de blessure. Puis là, j'arrête ici, puis je reviens dans quelques instants pour vous parler de comment on rend l'activité physique plus facile dans le cas de la sclérose en plaques.
Alors, restez avec nous après la chanson.
On t'a fracturé le ventre. Comme on brise des objets sans importance. Et depuis, tu te demandes pourquoi tu restes si plus rien n'a de sens. Sans faire de bruit. Mais moi,
J'espère que tu vas mieux, par Ariane Zita.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, Yvan, on reprend notre article.
Puis on espère que les gens qui vont pratiquer ça vont aller mieux, eux autres aussi.
Bien sûr.
C'est toujours dans le site canoë.ca, il y a un onglet santé. Mm-hmm. Et c'est le 29 septembre 2018, c'est l'exercice et la sclérose en plaques. Alors, comment rendre l'activité physique plus facile pour les gens qui sont touchés par cette maladie-là? Alors, afin d'aider à adopter une routine qui cadre avec l'emploi du temps sans trop fatiguer, voici quelques suggestions. D'abord, commencez par un centre communautaire ou récréatif près de chez vous afin de minimiser les déplacements. Puis ça, on dit ça même pour les gens qui sont en bonne santé, c'est un élément de motivation aussi. Évitez de faire de l'activité physique dans un endroit surchauffé. Vérifiez la température et l'humidité des vestiaires et informez-vous de la température de la piscine. Elle devrait idéalement se situer entre 80 et 84 Fahrenheit. Là, c'est quoi? C'est 23, 24 Celsius? Je ne sais pas. Quelque chose
je ne sais pas.
On fait un appel à tous. Attention où vous mettez les pieds. Vérifiez si le vestiaire et les alentours de la piscine ont un plancher anti-adhérent, s'il y a des barres de prise dans la piscine et les douches, et au besoin, si la piscine est équipée d'un lève-personne. Puis là, quand j'ai lu ce paragraphe-là, il n'y a pas beaucoup de piscines qui ont ça. Moi, je connais, il y a la piscine à Lucie Bruno, je pense, qui a que ce genre d'appareillage-là.
Mais c'est adapté
à
Lucie Bruno.
Oui, c'est adapté à la clientèle, effectivement. Oui. Apprenez à surveiller votre pouls et votre respiration et à les conserver à l'intérieur des limites appropriées. L'idée, c'est que si la chaleur interne monte, les gens qui ont la sclérose en plaques, la fatigue monte de façon exponentielle. Fait qu'il faut vraiment contrôler cet élément-là. Portez toujours des chaussures ou des sandales à semelles de caoutchouc sur les planchers mouillés des vestiaires et de la piscine pour ne pas tomber. Mm-hmm. Parce qu'on a des difficultés d'équilibre. Hein? Mm-hmm. N'hésitez pas à vous appuyer contre le mur ou à utiliser une chaise durant les cours de stretching, de yoga et d'aérobie. Si vous travaillez à améliorer votre équilibre, demandez à une personne de se tenir tout près comme protection. Et maintenant, quelques éléments pour traiter la fatigue lors de l'activité physique. Reposez-vous. Dormez suffisamment la nuit avant de pratiquer un sport ou de suivre un cours. Si vous avez habituellement besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour vous sentir reposé, couchez-vous une heure plus tôt la veille si vous pensez faire de l'activité physique le lendemain. Vous pouvez aussi faire une sieste de 15 minutes avant d'entreprendre une activité physique exigeante. Coordonnez votre routine d'activité physique avec le rythme de votre corps et de vos niveaux d'énergie. Par exemple, si vous êtes une personne du matin, vous vous inscrivez à une activité physique ou marchez 2 à 3 heures avant le déjeuner. Vous mangez un petit peu de noix, des bananes, mais pas plus. Parlez de votre problème de santé et de vos symptômes avec vos entraîneurs avant le début d'un nouveau cours. Laissez-leur savoir qu'il se peut que vous deviez arrêter souvent pour vous reposer. Un instructeur peut être en mesure de conseiller certaines activités mieux adaptées à vos capacités. Si vous vous sentez trop fatigué pour faire de l'activité physique, commencez par de l'activité physique modérée durant 2 ou 3 minutes. Une fois que vous aurez commencé, vous pourriez ressentir un surcroît d'énergie et une volonté de continuer. Sinon, si vous êtes toujours fatigué, arrêtez, puis reposez-vous. Si votre énergie commence à diminuer, prenez une pause de 15 minutes afin de vous rétablir. Allongez-vous ou asseyez-vous, les yeux fermés et respirez lentement et profondément. Et finalement, restez au frais et buvez au moins 2 litres d'eau chaque jour, ou l'équivalent de 8 grands verres de 250 ml. La chaleur corporelle excessive peut entraîner plus de fatigue, de faiblesse et d'autres symptômes reliés à la sclérose en plaques, comme la vue embrouillée. Il est essentiel pour les personnes atteintes de sclérose en plaques qui sont sensibles à la chaleur de rester au frais. Puis plus tard, dans les brefs, j'ai une petite affaire toujours par rapport à la sclérose en plaques.
Merci beaucoup, Yvan. Très éclairant. Alors, je vous amène sur un terrain peut-être un peu, comme je disais, morbide, mais fort intéressant, vous allez voir. C'est un article...
C'est un passage obligé.
C'est un passage obligé. C'est un article de Thomas Cavalier-Foll pour la revue Science et Vie du mois d'août 2018, et il s'intitule « On a vu la mort ». Alors, la mort, on ne veut pas y penser, hein, ou plutôt, comme le prévenait le philosophe Vladimir Jankélévitch dans les années 1960, on ne peut pas y penser. Avant, il n'est pas encore temps. Après, ben, il est trop tard. Et puis pendant, ben, pourvu que ça aille vite, hein, allez hop, ou qu'elle attende le sommeil pour frapper. Hein, tout le monde rêve de ça. Ouais. On parle plutôt de la vie, et, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et en fait, parce que la mort, c'est l'absence de vie. C'est quand tout s'arrête, tout est terminé, basta, on passe à autre chose. Alors, il faut avouer qu'une telle curiosité peut, sur le moment fatidique, peut sembler plutôt mal placée et peut-être morbide. C'est toujours un tabou de parler de la mort. Et jusqu'ici, l'explication de la mort a plutôt été réservée aux savants fous, aux écrivains torturés, aux illuminés. Les vraies avancées scientifiques, elles ont été rares. Certaines même ont été bannies, effacées, oubliées. Le cas des dissections est vraiment révélateur à ce sujet. Longtemps interdite durant l'Antiquité, l'ouverture d'un corps humain après le décès a été systématisée en Égypte pendant 50 ans. C'est pas très longtemps.
C'est pas le même,
hein? Et ça, c'était au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, avant d'être abandonné. Donc, leurs études ne reprendra qu'à partir de la Renaissance, soit plus d'un millénaire et demi plus tard. Alors,
quand
c'est
même
pour dire que vraiment, ça nous tentait pas.
On veut pas aller là.
En fait, le tabou est tel qu'il faut attendre 1903 pour qu'un scientifique, le russe Ilya Ilyich Mechnikov, ose proposer la naissance d'un nouveau domaine scientifique, la thanatologie.
Mm-hmm.
Alors, la science ne s'est intéressée à la mort que pour la repousser. Elle l'a regardée de l'extérieur, toujours depuis la vie, en fait. Mais il y a une vraie réussite, c'est quand même une vraie réussite grâce aux programmes médicaux et sociaux. Et l'espérance de vie, on le sait, a grimpé partout dans le monde. Pour le Canada, elle a augmenté de 16 % dans les 56 dernières années. On est à 82 ans à peu près d'espérance de vie. Mais on entendait hier que peut-être que ça va diminuer à cause des maladies comme le diabète, maladies cardiovasculaires et les opiacés. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'est la mort. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas vraiment de définition. Même pas de définition biologique, en fait. Mais l'année 2018, ça fera sans doute date dans la thanatologie, car en quelques mois, cette mort que la science a si longtemps esquivée a été enregistré. Vous savez, on met des capteurs sur le cerveau, entre autres. Et pas une fois, pas deux fois, mais trois fois.
Mm-hmm.
Par trois équipes de chercheurs différentes. Alors, il y a une synchronicité, là. Hein? Alors, aucune des trois équipes à l'origine ne s'intéressait à la mort en tant que telle. Leurs travaux se tournaient vers les moyens de prolonger la vie, comme toujours. Les uns étudiaient les chocs cérébraux, les autres le vieillissement, et les derniers, le fonctionnement des cellules cancéreuses. Mm-hmm. Retenez bien cet ordre-là, ça va revenir. Sauf que la première équipe a eu l'opportunité unique d'enregistrer l'activité cérébrale de mourants. La seconde a été témoin d'un phénomène éblouissant lors d'une étude sur la fin de vie de petits vers. Et la dernière a vu crépiter des signaux génétiques inattendus dans les cadavres encore chauds. Au final, vraiment, c'est à couper le souffle. Alors, dans le cerveau, dans les organes, puis dans les cellules, la mort prend différentes couleurs. Alors, dans le cerveau, un flash d'énergie orange. Dans les organes, une espèce de vague bleue. Retour et le final pour les cellules, un retour aux sources qui a l'air d'un feu de joie. Alors, on passe à travers toutes sortes de couleurs.
Hmm.
C'est incroyable, non? Alors, regarder la mort en face, bien, c'est aussi mieux comprendre la vie. Les promesses thérapeutiques qui découlent de ces découvertes sont aussi à la hauteur de, pour pouvoir traiter les comas, les transplantations ou le cancer. Alors, on est en train de répondre à la question « qu'est-ce que la mort, finalement? » Et je reviendrai sur la mort du cerveau, ça se fait en quelques, pas plus que 7 minutes. La mort des organes, ça peut aller jusqu'à 15 minutes. Et finalement, les cellules, attention, ça peut prendre 8 jours.
Ah bon?
Jusqu'à ce que la dernière se soit éteinte.
Ah oui.
Et rappelez-vous des couleurs. Alors, oui. C'est vraiment fantastique de pouvoir apprendre tout ça. Et c'était donc un article de Thomas Cavalier-Foll pour la revue Science et Vie du mois d'août 2018. J'espère que vous ne vous êtes pas trop traumatisé par ce sujet.
Je ne voudrais pas pratiquer trop vite.
D'accord. Alors, Marie, une petite brève d'Halloween, je pense.
Oui, d'Halloween. Vendredi 26 ou samedi 27 octobre, le centre eSaute, qui est un centre de trampoline à plusieurs endroits au Québec, vous accueille dès 23 heures. À minuit, il ferme les portes, puis personne rentre, puis personne sort avant 6 heures le lendemain matin. C'est pour les 13 ans et plus.
D'accord. Okay. Alors, est-ce que votre brève est très, très brève, cher ami?
Non, elle n'est pas très, très brève, elle pas très, très brève.
D'accord. Alors, chers collègues, chers auditeurs, je vous invite à demeurer avec nous. Voix de service magazine se poursuit après la pause. Bonjour, bon retour. Alors, en seconde partie, Marie, vous avez deux sujets dont vous nous parlerez.
Oui, je vous parle d'une expérience dans une commission scolaire où on fait parler les données pour cibler les décrocheurs, les éventuels décrocheurs, dans un premier temps. Mm-hmm. Et puis, dans un autre temps, je vais vous parler d'esprit critique qu'on peut enseigner pour contrer les fake news.
Ah oui, 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 c'est palpitant cet article.
Il y a tout un marché. Ouais.
Et de votre côté, Yvan?
De mon côté, une des choses qui ralentit le plus les personnes âgées de faire de l'activité physique, c'est la peur de tomber. Alors, je vous présente le programme intégré d'équilibre dynamique, c'est-à-dire le programme PIC.
Et ça, c'est tellement chouette.
C'est bien choisi.
Très, très bien choisi. Et de mon côté, je vous parlerai d'agriculture et de pollution des eaux, en fait. Est-ce que même des démarches d'agriculture des années 20 ont contribué à la pollution des eaux actuelles? Alors, Marie, des données qui permettraient de comprendre, en fait, de mieux cibler ceux qui sont en possibilité de décrochage.
Voilà, tout à fait. C'est un texte de Marie-Ève Moras que j'ai trouvé dans la presse plus le 22 octobre, donc c'est tout récent. Et ça se passe à la commission scolaire du Val-des-Serres, la CSVDC. Donc, on utilise des algorithmes pour dépister les élèves du secondaire les plus à risque de décrocher. Et c'est le pari qu'a pris cette commission scolaire-là, la commission scolaire du Val-des-Serres. C'est dans la région de Granby. En recoupant les informations qu'elle possède sur ses élèves, elle cible les jeunes vulnérables avec une précision étonnante. Alors, quelles données? On parle de notes scolaires, des informations sur les changements d'adresse et des journées d'absence. Autant de données dont disposait la commission scolaire, mais qui ne se, ouvrez les guillemets, ne se parlait pas, fermez les guillemets.
Mm-hmm.
Le directeur général de la commission scolaire a eu l'idée de les unir pour trouver les élèves que lui qualifie d'élèves beige. Ce sont les élèves qui sortent pas de la masse, mais ils nous font la surprise de décrocher. Contrairement à un élève qui s'absente à tour de bras et qui a des problèmes de comportement, il y a certains élèves qui passent sous le radar. Et c'est Éric Racine, qui est directeur général de cette commission scolaire Val-des-Serres, qui dit ça. La commission scolaire s'est associée à une firme externe pour concevoir un programme informatique qui recoupe les données contenues dans 6 banques dont elle dispose. Pour tester l'outil, on a utilisé le profil de décrocheurs qui ont quitté l'école il y a quelques années. Et le programme a réussi, dans ce test, à les dépister à 92 %. On a notamment découvert que la diminution du rendement scolaire, et non l'échec, est un facteur prédicteur important de décrochage pour ces élèves qui se font discrets. M. Racine donne un exemple. Alors, l'élève qui part à 75 % en mathématiques, qui l'année suivante est à 72 % et ensuite à 70 et ensuite à 65, il est en réussite pendant 4 ans parce que la note de passage, c'est 60. Il n'y a pas beaucoup de drapeaux qui se sont levés pour identifier son potentiel de décrochage, mais c'est quelque chose de primordial. Cette année, on teste le programme sur le terrain en analysant les données de 6e année de plus de 1200 élèves. La commission scolaire a ciblé 92 d'entre eux qui sont à risque de décrochage et ils sont maintenant en troisième secondaire. Certaines directions d'école ont été surprises quand on leur a présenté la liste des élèves. Ils ne l'avaient pas vu venir, dit M. Racine. Une baisse de rendement de 10 % sur 4 ans, ce n'est pas décelable dans une masse de 1500 élèves dans une école. Par contre, quand tu croises la baisse de rendement avec des retards non motivés, avec un échec en français 2 ans avant, et là, ça ressort. En excluant les employés mobilisés à l'interne, la commission scolaire a payé 20 000 $ pour le programme, qui suscite de l'intérêt au ministère de l'Éducation. Et M. Racine dit « c'est pas si dispendieux si on regarde tout ce qu'on dépense comme énergie et comme argent et qui était un peu fait à l'aveuglette. Ça permet de cibler les actions. » Les enseignants seront en mesure d'adapter leur enseignement en fonction de ces élèves, dit toujours le directeur général de la commission scolaire Val-des-Serres, Éric Racine. Alors, on peut trouver cet article-là dans la presse et ça a été publié le 22 octobre.
Voilà. Merci, Marie. Alors, Evan, vous nous parlez du pied.
Oui.
Et de l'équilibre, en fait.
Oui. D'autres questions?
C'est le pied.
On va prendre son pied.
Oui.
Bon, ça suffit.
Ça va faire. Alors, je vous parle du programme intégré d'équilibre dynamique, le programme pied. J'ai trouvé ça sur, toujours en faisant mes recherches pour les personnes malades ou les personnes âgées. Des fois, les deux se recoupent, malheureusement. J'ai trouvé ça sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CISSS, de l'Est de l'île de Montréal. Et je n'ai pas la date de parution, mais il y a un numéro de téléphone et j'ai téléphoné et ça répond. Alors, donc, ça marche encore.
Okay.
Les chutes et leurs séquelles sont parmi les problèmes les plus graves et les plus fréquents qui affectent les personnes âgées. Au Québec, on dénombre annuellement 13 000 chutes ayant entraîné l'hospitalisation d'une personne âgée de 65 ans et plus. Dans la moitié des cas, la chute a eu lieu à domicile et aurait pu être évitée. L'ampleur et la gravité du phénomène constituent un problème de santé publique important, selon un rapport de la Direction de la santé publique en 2015. Le programme intégré d'équilibre dynamique, le programme PIE, animé par un professionnel de la santé, vise à prévenir les chutes et les fractures chez les aînés autonomes. C'est un programme sécuritaire offert gratuitement pendant 12 semaines aux gens de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les chutes ou par leur équilibre. Et je donne tout de suite un numéro de téléphone que je vais redonner aussi plus tard. Alors, c'est le 514-353-6885 pour parler à quelqu'un et avoir de l'information sur le programme. L'offre de service, c'est d'améliorer l'équilibre et la force des jambes. Et nous, on connaît des personnes âgées dans nos entourages, c'est vraiment une des choses qui lâche le plus vite, là, c'est la force dans les jambes. C'est aussi de développer la capacité à aménager le domicile et à adopter des comportements sécuritaires. C'est améliorer le sentiment d'efficacité à l'égard de la prévention des chutes. C'est contribuer à maintenir la densité de masse osseuse aux sites les plus sujets aux fractures, les poignets, les hanches et la colonne, et favoriser le maintien d'une pratique régulière d'activité physique. Les interventions sont les suivantes. Le programme est conçu pour être offert à des groupes de 10 à 15 participants. Il dure 12 semaines, deux fois par semaine, et comprend trois volets. Le premier volet, c'est des exercices en groupe. Ces rencontres sont divisées en quatre parties. Ça fait bien des chiffres, là, mais c'est pas très grave.
On suit.
Mm-hmm. Première
partie. On est en équilibre.
Très bon choix de mots. Exercice de proprioception et vestibulaire. Là, j'ai cherché, pas très loin, là, mais ça veut dire travailler sur l'équilibre.
Mm-hmm.
Mais on travaille sur des demi-ballons, on est dessus, on est tenu, puis on essaye de travailler nos chevilles, nos mollets pour garder l'équilibre. Des activités d'intégration de l'équilibre à l'intérieur de marches avec des obstacles, des mouvements inspirés du tai chi. Des exercices de renforcement avec des bandes élastiques. Et finalement, des mouvements d'assouplissement. Ensuite, pendant les 12 semaines, il y a des exercices à domicile. Les participants sont invités à faire une douzaine d'exercices à la maison, une fois par semaine. Donc, c'est au moins trois activités par semaine, hein? Deux en groupe, une à la maison.
Mm-hmm.
Jumelés aux exercices, hein? C'est ça, je me répète. Après les 12 semaines, les participants sont encouragés à poursuivre leur entraînement à domicile plusieurs fois par semaine afin de maintenir les bénéfices de leur participation à pied.
On reprendra le 20 minutes par jour de l'article précédent.
Oui, mm-hmm. Tout à fait, c'est un bon point. Et finalement, il y a des capsules de discussion sur la prévention des chutes. Et les thèmes discutés pendant ces capsules-là, c'est prévenir les chutes dans chacune des pièces à domicile. Autrement dit, pas laisser traîner des choses, mm-hmm. Les tapis, les coller ou les fixer par terre, des choses de ce genre-là. Garder ses os en santé avec des capsules développées en collaboration avec l'organisme Ostéoporose Québec. Choisir des souliers sécuritaires, utiliser les médicaments de façon rationnelle et garder la forme après le programme pied. Alors, pour en savoir plus, vous allez sur le site et puis vous pouvez cliquer ou peser sur le mot dépliant. Et là, il y a un dépliant qui apparaît. Puis si on a un peu de temps à la fin, je vous en parle un petit peu. Et je vous répète le numéro de téléphone, 514-353-6885. C'est pour vous donner confiance dans la marche, dans le déplacement. Il y a l'hiver qui s'en vient.
Mm-hmm.
C'est inévitable. Alors, comment se comporter quand il va faire froid, quand les trottoirs vont être gelés, etc. Ça parle de tout ça.
Merci beaucoup.
Je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai croisé sur la route un avant-goût de paradis. Mais je vois tomber des gouttes même sous mon parapluie. They break me out. Je ne sais plus vraiment qui tu es. Un nouveau paysage ou bien quelqu'un que je connais. J'aperçois ton visage en léger différé. You break me out. You break me out. Avant que je perde une épaule. You break me out. Invente-moi une histoire drôle. You break me out.
la formation Mickey 3D en léger différé.
Merci Maurice. Alors maintenant, l'esprit critique et les fausses nouvelles.
Voilà, l'esprit critique, ça s'enseigne pour contrer les fausses nouvelles. Alors,
les false news.
Je commence par une question.
Les, oui, fake,
les,
news.
Les fake news. News. Ouais.
Est-ce que vous connaissez la zététique?
Non.
La zététique, c'est l'art du doute et ça consiste à étudier de manière rationnelle les phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges.
C'est pas essayé alors?
Non, pas du tout. Non, et c'est pas Edzen non plus, mais ça permet de l'être peut-être plus ou d'avoir une distance. C'est Delphine Young qui a publié ce texte-là sur le site iciradiocanada.ca. En septembre dernier. Alors, l'esprit critique, ça se développe. En fait, c'est l'arme choc dans la lutte contre les fausses nouvelles qui prolifèrent sur le web, cet univers dans lequel baignent les jeunes générations particulièrement. Et c'est pourquoi au Canada, comme en France, des professeurs, des enseignants misent sur l'éducation pour aider leurs jeunes à démêler le vrai du faux. Ça a commencé par un article du site internet parodique The Onion, que Sophie Mazet, qui est un prof d'anglais en France, avait fait lire à ses élèves. Le texte se terminait par une citation de Barack Obama qui disait « The F word.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Fuck you. » Excusez. Personne n'a bronché. L'enseignante s'est dit qu'il gobait vraiment n'importe quoi. Et donc, je rappelle, Sophie Mazet, elle enseigne en France dans un établissement de la banlieue parisienne. Une autre enseignante qui s'appelle Rosemarie Farinella, qui enseigne, elle, en Haute-Savoie, ajoute « J'étais préoccupée de recevoir un nombre croissant de fausses informations dans ma boîte courriel et sur Facebook. Je me suis demandé comment faisaient les internautes, et plus particulièrement les jeunes, pour se repérer sur Internet. Ce qui m'a le plus inquiétée, dit l'enseignante, c'est de trouver parmi ces fausses nouvelles certaines avec des arguments fallacieux incitant à la haine et au racisme. » Et il faut aller lire les commentaires des fois,
mm-hmm,
pour vraiment les cheveux nous frisent ou nous défrisent, c'est selon. Et comme il n'y a pas mille façons de mettre en place un tel enseignement, elles ont toutes les deux développé, chacune de son côté, des astuces qui, au final, sont très similaires. D'abord, apprendre aux enfants ce qu'est un journaliste, comment il travaille, puis identifier les sources, l'auteur d'un article, et déterminer quand la photo a été prise, prendre en compte le contexte, recouper les informations, etc. Leur cours d'autodéfense intellectuelle, dispensé à raison d'une heure par semaine, ne sont pour l'instant que des initiatives personnelles, certes soutenues par leur établissement respectif, mais qui n'ont pas encore été mises en place à l'échelle du pays. Au Québec, pour éveiller l'esprit critique des jeunes face aux fausses nouvelles, on mise plutôt sur la formation des enseignants qui, à leur tour, pourront éduquer leurs élèves. C'est le cas, ou c'est ce que fait l'organisme québécois L'École branchée. Audrey Miller, qui est directrice générale de l'organisme, explique « Nous offrons aux professeurs du matériel pédagogique qui leur explique comment développer les compétences informationnelles des élèves. » Les fiches pédagogiques développées à cette fin s'adressent aux enseignants du secondaire et du troisième cycle du primaire, c'est cinquième et sixième année. Présentement, il y a 12 commissions scolaires sur 72,
mm-hmm,
qui sont abonnées à ces fiches, ce qui permet à l'organisme d'atteindre 15 à 20% des enseignants du Québec, précise Mme Miller. En Ontario, c'est le programme ActuFuté qui est mis en place par l'organisme Civix, qui est développé dans 2800 écoles. Il propose des plans de leçons pour les professeurs désireux d'éduquer leurs élèves aux médias. L'idée est que les jeunes répondent moins émotionnellement aux nouvelles et qu'ils prennent un peu de recul. Et ce programme-là est disponible dans tout le Canada, donc on peut aller le chercher. Le programme ActuFuté a d'ailleurs été créé en collaboration avec la Fondation pour le journalisme canadien. Alors, on peut retrouver ce texte de Delphine Young sur le site iciradiocanada.ca. C'est un texte qui a été publié le 12 septembre.
Ce qui est intéressant, c'est que ces compétences-là sont utiles tout au long de nos études. Là.
Oui, toujours.
Et donc, former plus rapidement l'esprit critique, c'est quand, mm-hmm, même stratégique, ouais, là, pour la suite des choses.
Tout
là.
À fait.
Alors, un sujet terre-à-terre, je vous parle de l'eau.
Ben, le sujet ton sujet précédent, il était très terre à terre.
Je ne sais pas, il avait l'air un peu plus évanescent, mais en fait. Alors, ça vient de la salle de presse de UDM Nouvelles, donc de l'Université de Montréal, du 9 octobre dernier, et ça s'intitule « La pollution actuelle des eaux est héritière de l'agriculture d'hier ».
Alors, c'est de leur faute.
Mais je vais dire qu'on contribue royalement.
On ne fera rien, c'est pas notre faute.
C'est ça, oui. Alors, c'est une étude dirigée par des chercheurs, dont M. Jean-Olivier Goyette, qui est doctorant, et donc se joint à cette équipe de chercheurs du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Alors, cette étude a déterminé pour la première fois quelle quantité maximale de nutriments, le phosphore plus exactement, peut s'accumuler dans un bassin hydrographique avant d'atteindre les écosystèmes aquatiques, donc avant de polluer finalement nos eaux. Hein. Le phosphore, c'est un composant des engrais. On sait qu'il est indispensable à la croissance des plantes, mais le minéral, malheureusement, est aussi nocif lorsqu'il est surutilisé. Une fois dans les eaux de surface, il peut entraîner une croissance excessive des plantes dans les lacs et les rivières, ainsi qu'une prolifération, vous avez raison, Yvan, d'algues toxiques. Mm-hmm. Le seuil critique, c'est ce qu'on voulait trouver finalement, établi par les chercheurs dans leur étude qui a été publiée dans Nature Geoscience, est de 2,1 tonnes par kilomètre carré de terre. Au-delà de cette limite, les entrées supplémentaires dans les bassins provoquent une accélération marquée du nutriment dans le ruissellement des eaux. En fait, quand notre éponge, la terre, est pleine,
ça déborde.
Ça déborde et ça va où on ne veut pas que ça aille. Alors, afin de calculer la quantité de phosphore accumulée depuis un siècle, les chercheurs ont reconstitué les pratiques historiques d'utilisation des terres de 23 bassins hydrographiques qui alimentent le fleuve Saint-Laurent. Les deux principales sources de phosphore dans les terres drainées par les affluents du Saint-Laurent proviennent de l'agriculture, bien sûr, donc on pense aux engrais et aussi au fumier animal, et des autres activités humaines, notamment le rejet des eaux usées. Alors, l'étude révèle par ailleurs que même si l'agriculture intensive a débuté autour des années 50 au Québec, certains des bassins hydrographiques avaient passé le seuil critique 30 ans plus tôt, donc dans les années 20.
Mm-hmm.
Alors, imaginez l'accumulation là, qui se fait. Les chercheurs estiment que même si les surplus d'apport en phosphore cessaient immédiatement, il faudrait de 100 à 2000 ans pour éliminer le phosphore accumulé dans les bassins hydrographiques saturés du Québec.
Donc, on ne verra pas ça de notre
vivant. Non, c'est pas très réaliste.
Pas du tout. Donc, y a quand même, je pense, des réflexions de société à mettre en place. Donc, dans certains pays, comme la Chine ou les États-Unis, et ailleurs au Canada, l'utilisation actuelle du phosphore est tellement massive que le point de saturation pourrait être atteint d'ici 5 ans. C'est demain, ça. Par contre, en Europe, ils nous montrent souvent l'exemple. Hein, on a vu ce matin par rapport au plastique, là, il y a des lois qui seront adoptées. Ils ont déjà adopté des mesures d'atténuation. Alors, au lieu d'ajouter plus de phosphore pour aider la croissance des plantes, on peut accéder au phosphore déjà emmagasiné dans le sol en employant de nouvelles approches, des approches novatrices. De plus, on peut recycler et réutiliser le phosphore en tant qu'engrais au lieu d'en produire davantage. Le dilemme, c'est que la production alimentaire a besoin du phosphore. Mais bon, je l'ai dit, un excès de ce minéral pollue l'eau quand il sort du bassin hydrographique. Donc, comme je le disais, c'est une question de société. Il faut réfléchir et il faut vraiment apporter des mesures d'arrêt, pas juste correctives, mais aussi d'arrêt et de trouver des stratégies nouvelles pour réutiliser ce qui existe. Alors, attention à l'eau, ce sera la prochaine, je crois, bataille pour protéger l'eau. Imaginez les grands lacs et le fleuve Saint-Laurent. Les grands lacs sont tous aux États-Unis en partie, n'est-ce pas? Alors, c'était un article de la salle de presse de UDM Nouvelles du 9 octobre dernier.
En vers des extrêmement que m'appelait un écran.
Nos guerres par Rosie Vallant.
Alors Marie, vous avez une petite brève d'Halloween encore,
oui,
je pense?
Oui, en fait, c'est dans la majorité des bibliothèques, toutes les bibliothèques municipales du 20 au 27 octobre, c'est la semaine des bibliothèques. Mm-hmm. Et il y a plusieurs bibliothèques qui ont des programmations pour l'Halloween. Alors allez voir ça, c'est facile à trouver, c'est agréable.
Et je pense que vous avez un gentil mot d'enfant, oui, tout à fait approprié.
Olive, 8 ans, dit que le bonbon, c'est le truc absolu pour que les filles soient folles de toi.
Wow! C'est trop beau. Alors, je pense qu'on va terminer comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie Lalande pour le choix de ses articles et de ses mots d'enfant. À Yvan pour ses activités physiques qui nous stimulent. Et merci aussi à Maurice pour la mise en onde et le choix musical.
Merci, Monique.
À la semaine prochaine.
Au revoir.